Maintenant, donc, notre conférencier de ce soir, il s'agit de Maurice Godelier, qui est anthropologue. Il est né en 1934, ancien élève d'école normale supérieure, philosophe, agrégé de philosophie. Il a été chef de travaux à l'école des hautes études en sciences sociales, d'abord auprès de Fernand Braudel, puis il a été maître assistant auprès de Claude Lévi-Strauss. De 1982 à 86, il a été directeur scientifique au CNRS, responsable du département des sciences de l'homme et de la société. À partir de 1975, il était devenu directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Il est anthropologue, spécialiste des sociétés d'Océanie. Il a mené donc des recherches sur l'Océanie avec de nombreuses publications et productions de films. Il a étudié d'autres questions plus générales, les rapports sociaux, la distinction entre l'imaginaire et le symbolique, la distinction entre les choses que l'on donne, que l'on vend, celles qu'on ne peut ni vendre ni donner. Et ses dernières recherches ont porté sur l'inceste et les systèmes de parenté. Et c'est de cela qu'il nous parlera ce soir. Il est, avant que je parle de ses publications, ses travaux ont fait l'objet d'une reconnaissance particulière avec l'attribution de la médaille d'or du Centre national de la recherche scientifique en 2001. Alors, pour les travaux, je ne citerai pas tout, mais j'en donne quelques-uns. La production des grands hommes, pouvoir et domination masculine chez les Barouya de Nouvelle-Guinée, chez Fayard en 1982. L'idéel et le matériel, Fayard en 1984. L'énigme du don, édition Fayard toujours en 1996. La production du corps, approche anthropologique et historique, à Amsterdam en 1998. Et puis une publication toute récente fin 2004, début 2005, Métamorphose de la parenté, un gros livre paru chez Fayard toujours et qui en est déjà à sa seconde édition. Donc je lui cède la parole maintenant pour une cinquantaine de minutes et puis ensuite, bien sûr, Maurice Godelier répondra aux questions que vous voudrez bien lui poser. Merci.
Merci. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Un peu plus encore? Il faut y aller. Bon, très bien. Bon, d'abord, merci pour votre invitation et ça fait plaisir d'être là. Le sujet que vous m'avez proposé était évidemment impossible. Traiter de la parenté, de la famille et de l'inceste, tout ça en 50 minutes, c'est pas mal. Mais paraît-il, c'est l'université de tous les savoirs et donc vous voulez tout savoir en 50 minutes. Bon. Alors, on va essayer de galoper à travers tout cela de façon la plus claire possible. En plus, c'est des sujets d'actualité. Je puis vous dire que mon livre là, que j'ai publié, il a été épuisé parce que je traite bien sûr des familles recomposées, des familles homosexuelles, etc. Donc les journalistes s'intéressent beaucoup à ces questions qui sont des questions de société et aussi les partis politiques parce qu'ils vont devoir prendre des décisions législatives dans quelques mois, et peut-être avant la campagne électorale. Donc vous voyez l'intérêt de société, non? Donc, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'on appelle famille et parenté, parce que c'est un peu plus compliqué que papa, maman, la bonne et moi chez les Français, c'est pas tout à fait ça. Hein. Il faut pas avoir un point de vue simplement gallo-français, il faut essayer de regarder un peu ce qui se passe en dehors de nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'abord comme définition de la famille? C'est une unité sociale de procréation ou d'adoption des enfants et de leur élevage par des adultes qui ont vis-à-vis d'eux des droits, mais aussi des devoirs. Alors, la nature d'une famille, c'est pas toujours pareil et ça va dépendre du système de parenté qui existe dans la société. Donc, il faut déjà penser ensemble système de parenté et famille, parce que la parenté déborde la famille. Bien. Premièrement. Ensuite, qu'est-ce qu'on dirait sur les rapports de parenté? Ce sont des rapports sociaux qui organisent les alliances entre les individus et les groupes. Ça ne signifie pas le mariage. Il y a des sociétés où il y a des alliances sans mariage. Et dans notre société française, aujourd'hui, il y a 2 500 000 personnes qui vivent en union libre, pas de mariage, et ils n'en veulent pas. Mais il s'allie et en même temps, la famille, c'est deuxièmement des parentés, je veux dire, c'est les rapports sociaux qui organisent l'appropriation des enfants, c'est-à-dire qui définissent les règles qui permettent à des adultes qui se considèrent comme leurs parents, et quel type de parents d'ailleurs, d'avoir des droits sur les enfants, d'avoir des devoirs vis-à-vis d'eux, et de se livrer à une série de tâches qui relèvent de la parentalité. Donc j'essaierai tout à l'heure de vous définir la parentalité également. Alors, pour étudier les systèmes de parenté, si vous voulez, il faut regarder à six composantes. Il y a six composantes qu'on retrouve partout dans toutes les sociétés, mais sous des formes diverses. La première composante, c'est ce qu'on appelle filiation et descendance. Je vais vous expliquer après ce que ça veut dire. La deuxième composante, c'est ce qu'on appelle les règles d'alliance. Elles sont très différentes selon les sociétés. La troisième composante, c'est la résidence. Où va-t-on vivre après le mariage ? Avec sa femme, chez son mari, chez le père de son mari, chez la mère de sa femme, etc. Il y a beaucoup de sociétés, beaucoup de formules possibles qui sont en général chez les euro-américains. Je dis euro-américains parce que notre système et les Américains, disons catholico-protestants, etc., ont à peu près le même système de parenté que les occidentaux que nous sommes. Donc en général, chez nous, on appelle ça des systèmes occidentaux euro-américains. Donc là, si vous voulez, la résidence en général est ce qu'on appelle néo-locale. Les jeunes se marient et préfèrent habiter sans leurs parents, hein, s'installer en dehors du... quand ils n'ont pas d'argent, ils restent le plus longtemps possible dans l'une des familles, n'est-ce pas ? Surtout ces temps-ci. La quatrième composante de tous les systèmes de parenté, c'est une terminologie. Il y a des termes spéciaux pour s'adresser. Chez nous, c'est père, mère, mais qu'est-ce que ça veut dire père dans d'autres sociétés ? Où tous les frères du père, tous les frères de ce qu'on appelle nous pères, sont des pères. Donc je peux avoir 15 pères. Toutes les sœurs de mère sont des mères. Je peux avoir 12 mères. Bon, ça, ce type de système montre déjà que la question de la paternité, la maternité, c'est pas à définition universelle, c'est à définition à géométrie variable, sociale et historique. Cinquième composante qu'on trouve partout dans toutes les sociétés, je ne parle pas des spécialistes, des savants et des philosophes ou des religieux, hein. Je parle des gens qui représentent comment on fait des enfants. Comment on fait des enfants ? Qu'est-ce qu'un enfant ? Eh bien, vous serez bien surpris de savoir que dans la plupart des sociétés, un homme et une femme ne suffisent pas à faire un enfant. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'ils vont coucher ensemble, d'abord qu'un enfant va naître, et deuxièmement, s'il naît, ça ne veut pas dire qu'à deux, ils l'ont fait. Et tout simplement, si vous êtes chrétien, ce n'est pas vous qui avez fabriqué avec votre sperme ou avec je ne sais quoi l'âme de votre enfant. Donc vous ne pouvez pas, si vous êtes chrétien, penser que vous avez suffi à faire un enfant. Dieu est intervenu pour introduire une âme dans le fœtus. Voilà. Alors n'oubliez pas vos racines dites chrétiennes. Alors dans d'autres sociétés, le sperme fait tout l'enfant. Dans d'autres sociétés, la femme n'est qu'un sac. Et le sperme fait tout l'enfant parce que la femme n'est qu'un sac. Elle n'apporte rien à l'enfant que d'être un sac dans lequel il se développe. Dans d'autres sociétés, au contraire, le sperme ne fait rien dans l'enfant que de nourrir le fœtus. Et sixième composante, alors c'est la fin de cette conférence qu'on m'a demandé de faire, c'est les rapports, c'est les interdits sexuels. Les interdits sexuels entre parents. Parenté consanguine, parenté par alliance, parenté spirituelle pour ceux qui ont des parrains et des marraines chrétiennes, par exemple. Alors, et au cœur de ces interdits, mais il faut faire attention aux différentes sociétés, l'inceste, mais ce n'est pas seul. L'inceste, c'est un interdit, c'est un mauvais usage de son sexe, il ne faut pas faire n'importe quoi avec son sexe. Et donc, jusqu'il n'y a pas longtemps en France, l'adultère était un interdit sexuel fondamental. Maintenant, c'est un rapport consenti entre adultes consentants. Donc, ça a beaucoup changé. Mais dans d'autres sociétés, c'est lié aussi à d'autres interdits sexuels concernant la sodomie, par exemple. Est-ce qu'on peut sodomiser dans un couple ? C'était interdit par l'Église, par exemple, dans la culture européenne, etc. Passons. Donc, en tout cas, quand vous arrivez au domaine des interdits, ce sera la fin de la conférence, vous avez deux types d'interdits. Les interdits homosexuels. Un frère n'a pas le droit de s'amuser avec son frère, un père avec son fils, pas plus que le père doit s'amuser avec sa fille. Donc, il y a deux types d'interdits sexuels, l'homosexualité et l'inceste homosexuel, qui est très peu étudié, d'ailleurs. Et en général, d'ailleurs, les gens la ferment là-dessus. Et l'inceste hétérosexuel qui explose dans les journaux tous les 15 jours. Il y a toujours un cas d'inceste quelque part. Une infirmière qui a trouvé, ou une institutrice qui voit une gamine qui n'est pas très claire. Donc on monte un peu dans les affaires. Ah. Il y a 40 000 cas d'inceste déclarés en France par an. 40 000, mais sur combien ? Alors... Donc, ce n'est pas un phénomène qui est un phénomène tout à fait exceptionnel. Alors, d'abord, commençons par la première composante qui va vous éclairer, la famille, pourquoi ça change dans les sociétés. Il faut distinguer entre filiation et descendance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Filiation, vous êtes fils d'eux ou fille d'eux, d'un monsieur et d'une dame, papa, maman. Très bien. Mais dans beaucoup de sociétés, ce n'est pas parce que vous êtes fils d'eux ou fille d'un homme et une femme, et des deux groupes que ça représente, vous ne descendez que d'une seule partie. Vous êtes dans un système patrilinéaire où seuls les enfants appartiennent seulement au clan du père, à la famille du père. Donc, vous êtes fils de votre maman, mais vous n'appartenez pas au clan de votre maman. C'est ce qu'on appelle la descendance patrilinéaire. Mais dans d'autres sociétés... Au contraire, vous êtes fils de papa, maman, mais vous n'appartenez qu'à votre mère et aux frères de votre mère, et c'est l'oncle maternel qui a autorité sur vous, parce que vous n'appartenez pas à votre père. Bon, déjà, la famille est structurée autrement. Les rapports d'autorité à l'intérieur de la famille ne sont pas les mêmes, si le principe de descendance n'est pas le même. Dans deux sociétés, vous avez les deux, au contraire, qui marchent. J'appartiens et au clan de mon père et au clan de ma mère, mais je ne reçois pas la même chose. Je reçois le nom et la terre de mon père, merci, et je reçois des fonctions religieuses ou des statuts politiques de ma mère. Des deux côtés, pas les mêmes choses, mais je reçois les deux côtés. Dans d'autres sociétés, alors là, c'est assez rare dans le monde, mais les filles appartiennent au père et les fils à la mère. Et dans d'autres sociétés, les fils appartiennent. Strictement, les filles appartiennent au père, les fils à la mère, et d'autre côté, c'est parallèle, les fils appartiennent strictement et seulement au père et les filles à la mère. Alors nous, on est, les Occidentaux, là, on est, c'est bien nous, on n'est pas linéaire, comme on dit. Des deux côtés, on appartient aux familles du père, de la mère, donc du père du père, de la mère du père de la mère, ça fait quatre groupes déjà. C'est ce qu'on appelle, nous sommes dans une société à descendance non linéaire. Et parce que c'est non linéaire, filiation et descendance se regroupent. C'est pour ça que les journalistes et les philosophes, dès qu'ils sortent un peu de leur monde et qu'ils vont en Afghanistan, ils ont un peu de problème. Ouais, ça, c'est certain. Ça ne s'apprend pas en 8 jours. Hein. Surtout dans les sociétés fortement patrilinéaires. Bon. Chez nous, non, on peut dire « je suis fils de mon père, de ma mère, donc de mon grand-père, de ma grand-mère, etc. » C'est ce qu'on appelle un système ouvert indifférencié. Indifférencié. Et filiation et descendance sont la même chose. Il faut sortir de chez soi pour voir que c'est différent ailleurs que chez soi, voilà, premièrement. Donc vous voyez déjà que ça ne va pas du tout être pareil, la structuration de la famille, si les droits sur les enfants sont inégalement partagés, complètement inégalement partagés. Où la transmission du nom va venir seulement par les hommes, ou seulement par les femmes. Et le nom, ça compte dans la vie. Donc, la famille non plus, et l'individu. L'individu, hein, ce que je vous décris ici, ce sont des rapports sociaux qui produisent des vies d'individus, qui les marquent. Alors, on a même des sociétés où il n'y a pas du tout de mariage, et c'est dans quelques minorités chinoises, enfin qui ne sont pas chinoises d'ailleurs, mais tibéto-birmanes, où les frères et les sœurs vivent ensemble, tout le temps. Les femmes restent au foyer et chaque soir, les hommes vont baiser ailleurs. Bon. Et les enfants que les femmes mettent au monde, ben, les frères et les sœurs les élèvent ensemble. Donc, là, ce sont des sociétés qui sont à l'extrême d'une structure matrilinéaire où il n'y a pas de mari et il n'y a pas de père. Pas de père parce que les gens baisent un peu, quoi. Bon, et ils cherchent pas à savoir qui est le père. Alors, donc, vous voyez qu'ils sont plus relax que nous sur bien des points. De toute façon, dans les sociétés matrilinéaires, comme vous avez déjà bien compris, comme les enfants n'appartiennent pas au père, mais à la mère, en général, les femmes ont beaucoup plus de ce qu'on appelle chez nous liberté sexuelle. Elles choisissent des amants, et les amants font des enfants, et les enfants ne leur appartiennent pas aux amants. Donc, c'est plus cool. C'est plus cool. Alors, soyez pas obsédés par notre système à nous, hein. L'intérêt, c'est que l'humanité a inventé pas mal de choses intéressantes, vous voyez. Alors, deuxième chose, c'est deuxième composante de la parenté, c'est les alliances. Alors, je viens de vous donner un cas extrême chez les nains de Chine. Il y a des échanges, on peut dire, puisque les hommes couchent avec les femmes, des échanges de sperme entre les familles. Mais il n'y a pas d'alliance, on peut dire. Échange sans alliance. Et pas de mariage. Bon, mais en général, ça ne se passe pas comme ça. En général, il y a alliance. Mais attention. Il y a deux, dans le monde, vous voyez, ce qui est intéressant avec les sciences sociales, c'est quand on travaille bien, on arrive à trouver des logiques. Et il n'y a pas des millions de logiques dans les sociétés humaines. Il y en a un petit nombre. C'est ça les progrès de la science. C'est de montrer que cette diversité se réduit à des combinations, quelques-unes, quoi, qui sont faites. Alors, alliance. Il y a deux façons de s'allier dans le monde. Je dirais trois avec, parce que la troisième combine les deux premières. Alors, première façon, on s'allie avec soi. Deuxième, on s'allie avec d'autres que soi. Alors, c'est plutôt chez nous comme ça que ça se passe. On s'allie avec d'autres que soi. On n'épouse pas sa sœur. Ni sa fille. Bien. Attention. Dans d'autres sociétés, et c'était classique dans l'Antiquité, alors accrochez-vous à votre siège parce que ça ne va pas vous sembler normal. Donc, vous risquez un traumatisme psychique. Donc, dans l'Antiquité, en Égypte, jusque 3e siècle après Jésus-Christ, on épousait sa sœur. Et ce n'était pas un inceste. Donc, je vous prépare déjà pour la finale. Hein. Ce n'était pas un inceste. C'était, au contraire, le mariage socialement le plus valorisé. C'était le mariage qui mettait les hommes à l'image des dieux. Car, si vous vous rappelez, le pharaon avait épousé sa sœur, il était lui-même le fils de Dieu, Isis et Osiris, qui s'étaient unis. Les hommes reproduisaient une union divine. Donc, ce n'était pas le bordel, ce n'était pas des pornos qui... Non, c'était... Bon. Et alors, il s'est passé une chose très intéressante, c'est les Grecs de l'Antiquité... à Athènes, épousaient parfois, parmi d'autres femmes, leurs demi-sœurs de même père, mais à Sparte, de même mère, de même ventre. En gros, dans toute l'Antiquité, sauf à Rome, les mariages proches et très proches étaient multiples. Le christianisme a imposer des mariages lointains, à distance. Le plus bel exemple qu'on ait, ce sont jusqu'au 7e siècle en Iran, on a toute la poésie amoureuse, la religion était mazdéenne, c'était le combat du bien et du mal, ça durait longtemps cette affaire, et là on épousait sa sœur. C'était parmi d'autres femmes, mais on pouvait le faire. Et on était marié par un prêtre qui avait lui-même épousé sa sœur. Pourquoi ? Parce qu'en épousant sa sœur, on repoussait le mal qu'il y a dans le monde. Donc socialement, on était top. Et deuxièmement, on avait une promesse d'être au premier rang du paradis. Donc on gagnait deux coups. Dans la vie, on était très bien vu. Et après la mort, on était au premier rang. Bénéfice net double. Ça a été interdit au IXe siècle par l'islam. Le christianisme est arrivé en Iran, n'a pas réussi à interdire ses pratiques, comme on disait. Mais bon, l'islam est arrivé au IXe siècle et les prêtres se sont enfuis en Inde et la religion a été interdite. Bon, ce n'est pas la première religion qui sera interdite par une autre. Voilà. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le... Alors attention, je vais vous expliquer tout à l'heure. Dans l'Égypte, on a trouvé toutes les archives maintenant, énormément d'archives. Le père ne couchait pas avec sa fille avant qu'elle épouse son fils. La mère ne couchait pas avec son fils avant qu'elle épouse, etc. C'est-à-dire l'inceste intergénérationnel était interdit. Et l'union d'une même génération était divine. Comprenez maintenant l'articulation. Bien. Bon, en général, ces choses-là ne sont pas dans les livres. Parce que les livres sont très propres en France, aux États-Unis aussi. C'est complètement occulté depuis des centaines d'années, parce que la perspective, c'est une perspective judéo-chrétienne qui a refoulé beaucoup de faits sociaux, beaucoup de faits historiques qui appartiennent à d'autres cultures et qui ne sont plus dans le panorama scientifique. Hein. Mais nous, on n'est pas, nous, les scientifiques, on n'est pas liés par ça. Alors donc, ça c'est ce qu'on appelle se marier entre soi. Ensuite, ce que vous connaissez, c'est se marier avec d'autres que soi. Lévi-Strauss en a fait même le fondement général de la parenté. La parenté serait fondée sur l'échange des femmes par les hommes pour les hommes. C'est vrai pour beaucoup de sociétés, c'est pas universel, c'est pas un fondement universel. Je m'excuse de le dire vis-à-vis de mon maître, mais... Il y a des sociétés où c'est les femmes qui échangent les hommes. Ça existe. Et elles sont aussi dures que les hommes quand il faut négocier pour la dot. Et au lieu d'avoir un bride wealth, bride en anglais la fiancée, on a un groom wealth, le prix du fiancé. Et les femmes, elles ne font pas de cadeaux. Vous avez aussi des sociétés... Ça, c'est les Hades de Vietnam, etc., Timor. Vous avez des sociétés, Madagascar, et même chez nous, d'un certain point de vue, où ce n'est pas un sexe qui échange l'autre, femme échangeant les hommes, c'est « je te donne ma fille ». Et les gens disent « je te donne mon fils ». Alors, il n'y a pas d'échange d'un sexe, mais chacun apporte un morceau de l'alliance. Ça, c'est très fréquent. Donc les rapports dans la famille ne sont pas les mêmes. Imaginez maintenant, moi j'ai vécu 7 ans dans une tribu de Nouvelle-Guinée, de l'intérieur de Nouvelle-Guinée, 6 ans après le premier contact avec les Blancs. Donc vous imaginez ce que j'ai pu voir, c'est-à-dire des sociétés très peu touchées par l'Occident. Mais là c'était l'échange direct des sœurs, en gros ce qu'on appelle sœurs, des femmes par un clan avec un autre clan, ce qu'on appelait Guinamaré. Donc je dois donner une femme pour en avoir une. Si je donne une femme, le type est en dette vis-à-vis de moi. Comme il me rend une femme, je suis en dette vis-à-vis de lui. Et l'échange des femmes crée une double dette qui équilibre le statut de chacun, forcément. Je suis à la fois donneur et supérieur, et je suis preneur et inférieur. Donc chacun au bout du terme, même égalité de statut, mais c'est créer une double liaison qui toute la vie va faire contre les beaux-frères et les familles. On va échanger les cochons, on va échanger du boulot, on va travailler ensemble dans les champs, s'il y a des conflits, on va être à côté l'un de l'autre pour se battre. Donc là, l'échange des femmes, c'est un jeu de dettes et d'obligations. Et c'est un très fort moteur de la vie sociale. Donc là, c'est l'échange des hommes, les femmes par les hommes, il y a l'échange des hommes par les femmes aussi, ça se trouve, dans quelques sociétés, pas trop. En général, les sociétés matrilinéaires. Vous voyez qu'une partie de l'humanité n'a pas mis l'homme au premier rang comme mari pour la famille, hein, mais a mis la femme au premier rang. D'autres sociétés ont mis l'homme. Bon, c'était possible. C'était possible, mais... Et on ne sait pas expliquer les conditions de ces variations. On sait maintenant faire à peu près le tableau général de toutes les transformations. On a beaucoup gagné sur un siècle. Mais si on pouvait expliquer pourquoi l'humanité ici a fait ça et là par là, il y aurait beaucoup de prix Nobel. Mais c'est plus compliqué que la matière, la société. Parce qu'on ne peut pas mettre des sociétés dans des machines pour travailler dessus, hein. Donc, deuxième formule, si vous voulez, c'est donc l'échange avec d'autres que soi. Et la troisième formule, c'est les gars qui jouent les deux cartes. On épouse au plus près de chez soi et on va chercher les femmes ensuite ailleurs. Un des systèmes les plus importants, c'est ce qu'on appelle, mais c'est mal fait, c'est mal dit, le mariage arabe. Bon, chez les musulmans, Monsieur Mohamed a repris une formule de sa culture, qui était une culture bédouine autour de lui, donc on connaît ce qui s'est passé quand même, 6e siècle. On doit épouser comme femme privilégiée, ça vous explique aussi beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, on doit épouser comme femme privilégiée la fille, et regardez bien, la fille du frère de votre père. Voyez bien, votre oncle paternel. Vous avez bien compris, je vous parle en français parce que si je vous le dis en arabe, c'est impossible. Mais c'est le vrai terme. Et voilà. Alors, c'est la femme la plus proche de vous, sauf votre sœur, puisque les deux frères, c'est du même sperme. On est en plein patrilinéaire. Deux frères venant de même arrière-grand-père, etc. Donc, vous épousez comme première femme, vous savez que vous avez le droit à 4 femmes légitimes plus les concubines. Donc, en général, vous pouvez épouser, ce n'est pas une obligation, votre cousine la plus proche du côté paternel. La deuxième femme que vous épousez, c'est une autre cousine plutôt du côté maternel, et hop, ça fait 2 coups utiles dans la famille, enfin dans 2 familles d'ailleurs. Et puis après, vous choisissez comme troisième épouse, ce n'est pas un conseil pour vous, mais plutôt une étrangère dans la tribu. Et la quatrième, une étrangère hors de la tribu, vous avez tout là, hein. Extérieur à la tribu, pas une parente dans la tribu, une deuxième parente dans la tribu et une première. Alors là, avec 4, vous balisez total. C'est un système, ça marche très très bien. Hein. Faut pas croire que c'est des systèmes qui marchent pas, ça marche très bien ça. Bon, alors, mais il faut mieux le savoir, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer à Dominique de Villepin de temps en temps, d'apprendre, même à Sarkozy, hein. Il faut connaître les structures sociales, ils sont prêts d'ailleurs à comprendre, mais bon. Mais il faut plutôt leur expliquer quand même. Voilà. Donc, quand vous voulez chercher leur cousine en Algérie, ça veut dire quelque chose. Bon, alors donc là, vous avez la troisième formule, on combine les deux. Première, et ça fait un jeu assez complexe quand même. Hein. C'est ce qu'on appelle des stratégies matrimoniales. Mais chez moi, je suis de Cambrai, je suis un ch'timi. Quand j'étais petit, hein, on mariait des vaches quand même. C'est-à-dire 2 fermes l'une à côté de l'autre, on essayait d'arranger quand même que l'amour rejoigne les vaches. Et puis on acceptait que des infidélités se fassent dans les champs. Comme ça tout le monde était content. Les vaches étaient contentes, le sexe était heureux, enfin bref. Mais on allait à l'église le dimanche, hein, attention. Hein. Il faut voir les pratiques réelles avant de voir des philosophes. Hein. Bon. Donc, vous avez vu maintenant la deuxième grande allure, se marier en général. Alors, le christianisme, lui, a fait quelque chose que d'autres cultures ne font pas. Donc, je vais vous l'expliquer quand même. Pour les chrétiens... Quand on se marie, d'abord c'est un sacrement. dans d'autres sociétés, il n'y a pas question que ce soit un sacrement. On se marie, et beaucoup de sociétés, il n'y a pas de mariage. La fille accepte que le gars vienne coucher avec elle, et les parents disent oui. Et au bout de 6 mois, ça dure, c'est tout. Il n'y a pas de mariage, là. Il n'y a pas de cérémonie. Ça se fait de plus en plus chez nous, hein. Vous avez bien remarqué, non? Bon. Si vous voulez, chez nous, de plus en plus, le couple ne fait pas famille. Et les gens se marient à partir de 29 ans, maintenant. Donc, ils vivent en couple, et parfois, quand ils se marient, souvent, ils se marient, mais après 1 ou 2 enfants, déjà. Donc, c'est totalement différent d'il y a un siècle. Complètement transformé, hein. Alors, reprenons le fil. Donc, concernant... d'un seul coup, je suis perdu, tiens.
Christianisme.
Hein?
Le christianisme.
Sur le christianisme, oui, justement. L'idée chrétienne qui remonte à la Bible, vous savez que Ève est née d'une côte de Adam, donc il n'y a pas eu de sexe, là. C'est Dieu qui a fabriqué une femme à partir d'un homme. Donc. Et ensuite, cette femme a été très, très, comme d'habitude... Elle a créé des problèmes. Donc. Et donc, on les a chassés du paradis. Et à partir du moment où on les a chassés du paradis, parce que Ève avait incité son Jules à voler l'arbre de la connaissance, il s'est passé qu'on a été obligé de faire l'amour pour avoir des enfants, sexe, de travailler au lieu de ne rien foutre, deuxième chose. Donc, des tas de trucs sont arrivés. Bon. Et surtout, le péché originaire, la macula, la faute originaire, a été, cette faute-là, de l'irrespect vis-à-vis de Dieu. Cette faute a été transmise de génération en génération, que vous le vouliez ou pas, vous la transmettez par le sexe. D'où il a fallu l'immaculée conception. Immacula conception. Que une femme soit... sans faute originelle. Je passe là-dessus, je ne fais pas un cours de religion. Oui, mais qu'est-ce qui était la formule dans la Bible qui a été reprise par les théologiens? C'est une formule qui dit ceci. Quand un homme fait l'amour avec une femme avec un homme, ils ne deviennent qu'une seule chair, una caro. Et les enfants deviennent la chair de leur chair. OK? Bon, allez dire ça en Chine, allez dire ça en Nouvelle-Guinée, que quand vous faites l'amour avec un homme ou moi avec une femme, je deviens sa chair, les types vomissent. C'est une représentation qui les heurte profondément. Profondément. Bon. Et c'est sur cette base-là qu'on interdit, dans le christianisme jusqu'au XIIIe siècle, on multiplie les interdits de mariage, cousins du premier degré, cousins du deuxième, quatrième, cinquième, ils sont allés jusqu'au septième, treizième, au XIIIe siècle. Et alors, là, ça ne marchait pas parce que les aristocrates se marient entre eux, quoi. Parce que ce n'est pas n'importe qui, un aristocrate. Et deuxièmement, les paysans vivent entre eux et ils ne trouvaient plus de femmes. À force de chercher loin, donc il a fallu que l'Église mette de l'eau dans son vin. Et on a réduit du XIIIe siècle de 7 à 4, et ensuite de 4 au XIXe siècle à 2. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que fait l'Église, mais... Bon. Alors, donc vous voyez aussi que l'élasticité des interdits, et que vous les comprenez dans une logique culturelle. Ailleurs, non, ce n'est pas la même chose. On va peut-être interdire le troisième degré aussi, mais pour d'autres raisons. Ce n'est pas universel qu'on interdise tous ces parents-là. De toute façon, maintenant, ce n'est pas du tout interdit par le Code civil. Vous avez même le droit d'épouser votre... Vous divorcez, vous épousez la sœur de votre femme. C'était interdit jusqu'il y a 20 ans. Hein. C'était exactement un interdit sexuel du Moyen-Âge. Vous ne pouvez pas épouser votre belle-sœur du vivant de votre femme. Il fallait attendre qu'elle soit morte. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Vous divorcez, vous épousez la sœur de votre femme. C'est pas bien vu, mais bon, ça se fait. C'est pas bien vu pour des raisons un peu historiques. Hein. Bon. Alors, donc maintenant, vous avez compris déjà des structures qui... Et après, vous arrivez où un autre élément fondamental, c'est la résidence. Vous naissez quelque part. Et le problème, c'est où allez-vous habiter après votre mariage, enfin, ou ce qui correspond à la déclaration d'une union, à l'établissement d'une union. Vous allez, alors, chez les systèmes patrilinéaires, en général, les femmes, hop, elles déménagent, elles vont vivre avec leur mari qui lui-même vit avec son papa. Très patrilinéaire, là. Hein. C'est ce qu'on appelle un mariage patri-viri-local. Vir, en latin, vous avez compris, c'est l'homme, pater, bon. Sinon, vous avez toutes sortes de sociétés où c'est le mari qui déménage. Uxori local. Uxor, en latin, la femme, l'épouse, il va vivre chez son épouse. Donc, il est sous le contrôle de ses beaux-parents, lui. Moi, je suis du Nord, et bien, chez les Ch'timis, en tout cas du côté de Cambrai, je me souviens que je ne pouvais pas comprendre quand j'étais petit. Mais en général, les hommes allaient vivre chez leurs femmes. Et des histoires de belles-mères n'en finissaient plus, parce que l'homme n'aimait pas être sous le contrôle non seulement de sa femme, mais de la mère de sa femme. Mais ça dépend un peu des sociétés, ça. Alors, bon, voilà. Terminologie de parenté, quatrième élément fondamental. C'est fondamental. Dans toutes les langues, il y a un vocabulaire pour dire des choses de parenté, quoi. En français, c'est père, mère, cousin, cousine. Bon. Si je reviens 2000 ans en arrière, d'où sortons-nous, nous ? On sort du latin, en gros. En latin, autrefois, dans l'Antiquité, on disait « pater » et l'oncle, le frère du père, s'appelait « patrus ». Il y avait un mot spécial pour le frère du père. La sœur du père s'appelait « amita ». Je me tourne vers ma mère, j'appelle « mater ». Vous voyez, nous, les Européens, on comprend tout ça. Mater, enfin, de langue romane, on comprend tout ça. Mais c'est devenu aussi en anglais « mother », etc. C'est des langues indo-européennes. Bon, ok. Mater, mais en latin, il y avait « mater terra », un mot pour la sœur de la mère, très spécial. Et l'oncle, le frère de la mère, s'appelait « avunculus ». Avunculus, oncle. Avunculus, onkel en allemand, onkel en anglais, etc. Amita, aunt en anglais, la tante, etc. Qu'est-ce qui a disparu ? Deux termes ont disparu. Patrus et oncle, enfin oncle, avunculus a désigné les deux oncles, paternel et maternel. Ça a giclé, hop, mais de l'autre côté, mater terra a disparu, également, symétrique. Vous voyez les structures, ça ne bouge pas comme ça. Hein. Si on touche à un terme, on touche à une relation. Et hop, mater terra a giclé et on dit tante pour les deux. Tante pour les deux, oncle pour les deux. Et après, on est bien emmerdé. On est obligé de dire, c'est mon oncle du côté de mon père, c'est mon oncle du côté de ma mère, c'est mon cousin. Parce que tout a changé aussi au niveau du cousin. Cousin, c'est co-sobrinus, en latin, consobrinus. C'était une position de cousinage, et tous les cousins, c'est tous les mêmes. Fils de tante et fils d'oncle, c'est des cousins. Dans des tas de sociétés, c'est De dire ça, c'est le bordel total. Faut le dire, hein, parce que moi je parle d'autres langues, et là, si je dis, par exemple, en Barouya où j'ai vécu 7 ans, si je dis Noumoué, j'ai mon père et tous les frères de mon père, c'est mes pères. Ok. Donc j'ai pas d'oncle là. J'ai pas d'oncle de ce côté-là. Je me tourne là-bas vers ma mère, je l'appelle Nouak. Et tout, là, j'ai 10 mères. Là. Toutes les sœurs de ma mère sont mes mères. C'est ce qui est peinard, d'ailleurs. C'est gentil, les femmes, et donc on y va. Elles sont obligées de m'accueillir gentiment, etc. Il y a des... Mais après, je me retourne vers ce monsieur, là, le frère de ma mère. Là, il y a un terme pour lui, ça s'appelle « api ».« Api ». Et tous les frères, c'est des « api », des oncles maternels. Donc, j'ai des oncles de ce côté-là, j'en ai pas de ce côté-là. Bon, alors vous comprenez qu'à ce moment-là, pour traduire les langues et tout ça, il faut mettre des notes en bas de page quand même, non ? Si vous arrivez comme ça, vous dites « Ah ben c'est mon père ben, ». En plus, si les gens parlent un peu l'anglais plutôt le français, bon, dans les colonies, la langue du colonisateur, il y a des gens qui vont vous traduire ben, « Ça c'est mon père ». En fait, ce n'est pas du tout son père au sens de géniteur. C'est le troisième frère de son père. Pour l'administration coloniale, ça pose des problèmes, ça. Mais pour les solidarités aussi, c'est très important de voir que les gens vont se trouver sur une autre base de solidarité. Pas de parenté, mais ce n'est pas la même que nous. Alors, vous avez compris, quoi. Bon. Alors, je ne vous parle pas de la complexité des terminologies de parenté. Mais, par exemple, en Polynésie française, vous voyez qu'il y a des petits problèmes là-bas. Vous avez entendu parler, non? Eh bien, on n'a que des grands-pères et des grands-mères. Il n'y a pas de grand-tante. Donc, tout le monde s'appelle « Bonjour, mon grand-père » et tout. Et puis, il n'y a que des pères et des mères. Il n'y a pas d'oncle du tout, même. Et il n'y a que des frères et des sœurs partout. Donc, vous voyez comment on peut jouer ensuite pour manipuler la parenté de façon... même s'il n'y a pas de lien génétique, il faut se traiter comme des parents. Alors, vous voyez ce que ça veut dire, se traiter comme des parents, hein? Bon. Alors, je vais très vite pour maintenant la cinquième composante. C'est, dans toutes les sociétés, on a des représentations de l'enfant. Qu'est-ce qu'un enfant? Comment on fait des enfants? Donc, vous pensez savoir faire des enfants? Ben, vous ne le savez pas, hein? Il y a beaucoup de façons de faire des enfants. Il y en a une biologique que vous devez savoir. Si vous ne savez pas, il faut vous dépêcher. Mais le reste, les façons sociales de faire des enfants, et qu'est-ce que c'est qu'un enfant? C'est très compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, parce que quand vous comprenez la logique sociale autour, vous voyez à peu près ce que les gens veulent dire. Bon. Donc, dans beaucoup de sociétés patrilinéaires, le sperme fait l'enfant. Ça fait les os, ça fait la chair, ça fait tout ça. Bon. La femme, c'est un sac, un récipient. Voilà. Bon. Il y a des sociétés qui poussent le bouchon très loin. Là, je vivais dans une société patrilinéaire de Nouvelle-Guinée, et qui était à domination masculine très forte, hein. Pas de classe sociale, pas de caste, mais des clans. Et là, ils allaient jusqu'à dire que le lait maternel, donc une substance qui pour nous apparaît comme féminine par excellence, hein, la mère, le lait, tout ça, c'était du sperme transformé. Donc là, j'aurais dit, vous êtes fort là, parce que vraiment... Arriver à faire que les substances féminines soient du sperme transformé, ça, ils occupent le terrain, là. Oui, mais en même temps, ils ne sont pas fous et ils donnent des preuves de ça. Et ces preuves, pour les esprits, pour les oreilles innocentes, taisez-vous, enfin, bon, les femmes doivent ingurgiter le sperme de leur mari. Donc ça se transforme, le sperme, en lait maternel. Why not? Pourquoi pas? C'est l'imaginaire, hein. Toutes ces représentations, qu'elles soient chrétiennes ou pas, ce sont des constructions imaginaires. Eux, ils ont... Mais des constructions imaginaires auxquelles on donne des preuves réelles. Vous avez compris? Preuves réelles égale pratique érotique. Bien. Mais vous avez des sociétés où c'est, par exemple, matrilinéaire, où le sperme ne fait pas l'enfant. Et les types vous le disent. Ils vous expliquent, ils vous disent, mais écoutez, si c'est vrai que le sperme fait l'enfant, mais on baise 1000 fois et on n'a pas d'enfant 1000 fois. Ben oui, alors bon, alors ils expliquent que le sperme bouche le trou, déjà. Bon, et que c'est la femme qui fait l'enfant avec son sang menstruel qui se bloque dans le ventre et ça fait la chair et ça fait le corps de l'enfant. On n'a jamais vu du sang menstruel se transformer en enfant, mais personne au monde avant la biologie moderne n'a vu du sperme se transformer en enfant non plus. Ça échappe à l'observation. Ce qu'on a vu, c'est des fœtus dans les fausses couches et tout ça. D'ailleurs, quand je discutais avec les gens, ils me disaient, on a vu des fœtus, ça ressemble à des petites souris, par exemple. D'autres vous disent, ça ressemble à un petit singe. Bon. Donc là, du côté des matrilinéaires, souvent, l'enfant, c'est du sang menstruel, du sang de la mère, quoi. C'est le sang de la mère. De sorte que tous les hommes ont comme sang du sang féminin. Puisque tous les enfants sont faits par leur mère. Donc le sang des hommes, c'est du sang non pas masculin, mais du sang féminin qui coule dans leurs veines. D'où la dépendance par rapport aux femmes et à l'ancêtre, qui a l'ancêtre femme du clan. Vous vous rendez compte, hein? Maintenant, vous comprenez que Quand on dit qu'est-ce qu'un enfant dans une société, il faut voir comment les gens représentent le corps, les substances, etc. Et, attention, qu'est-ce qui anime tout ça ? Anima, animé. Alors, en général, c'est pas le sperme, c'est pas le sang. Et dans la plupart des sociétés, un enfant, c'est un ancêtre réincarné. Et chez nous, c'est une âme mise par Dieu dans chacun d'entre nous, chacun ayant une âme individuelle qu'il faut sauver du péché pour gagner son ciel. Donc chez nous, c'est le christianisme, à chaque fois, interdit tous les cultes d'ancêtres à réincarnation. Si les gars, ils se disent, mais attention, je suis déjà mon grand-père. Alors, le curé doit convertir et le grand-père qui s'est réincarné et le petit-fils. Donc, vous voyez, c'est... Non, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça, c'est contradictoire avec leur philosophie, c'est pas possible. Mais pour beaucoup de sociétés, les gens vous disent, et quand ils donnent le nom, moi j'étais dans une société où, par exemple, un ami à moi qui s'appelait Guataillé, ben, dès que je dis Guataillé, tout le monde sait que c'est un membre du clan des Andavakia. Le nom, et donc s'il s'appelle Guataillé, c'est que son grand-père ou son arrière-grand-père était Guataillé. Donc il se sent lui-même la réincarnation d'un ancêtre. Vous voyez ? Il se sent lui-même. Donc pour ces gens-là, la vie ne commence pas avec la naissance. Chez nous, c'est l'individu est absolu. On est le fils de nos œuvres, paraît-il, et tout. Bon, absolu de vodka, non ? Nous sommes l'individu absolu. Pour eux, ils sont leurs ancêtres vivants en eux, mais qui vont transmettre aussi. Ce n'est pas la même vision des choses quand même, non ? Et de la mort aussi. Et de la mort, ce n'est pas la même vision de la mort. Bon, en tout cas, je peux vous dire que c'est universel. La mort n'est pas la fin de la vie. Pour tous les peuples que nous connaissons, la mort n'est pas la fin de la vie. C'est le début d'une autre vie. C'est-à-dire... quelque chose se détache de vous, qui va continuer à exister. Bon, c'est la matière première de beaucoup des religions, quoi. Donc, vous avez vu maintenant, au fond, ce que font les hommes partout, c'est des fœtus. Et pour qu'un donc, ils font pas des enfants. Un enfant complet, il faut plusieurs acteurs qui interviennent. Des ancêtres, des dieux, enfin des gens plus puissants que nous, en tout cas. Sixième et dernière composante de la parenté et qui touche la famille, vous allez voir. Donc, vous avez bien vu ici un élément pour la famille important que je viens de vous faire passer, c'était le nom. Famille, on va donner un nom à l'enfant qui naît. Et d'où vient le nom ? De la mère ou du côté du père ? Bon, chez nous, on choisit le calendrier, puis on regarde. Et on a des choix quand même dans beaucoup de sociétés. Par exemple, moi, je m'appelle Maurice Godelier parce que mon parrain, donc j'avais un parrain, s'appelait Maurice. Donc il y avait des règles de transmission de parrain à filleul. En plus, ce monsieur, c'était le deuxième mari de ma grand-mère. Donc si je refais ma parenté, ça va être amusant. Enfin, je ne savais pas en naissant que j'allais faire un cours ce soir sur la parenté, donc je n'ai pas été préparé pour ça. Sixième et fondamental, il n'y a pas de parenté sans sexe. Attention, pas de parenté sans sexe, je vous ai déjà parlé de l'Immaculée Conception, elle était deux fois immaculée. Beaucoup de sociétés acceptent l'idée que des femmes puissent être enceintes sans qu'elles copulent avec un homme. Elle considère que c'est exceptionnel, mais ce n'est pas impossible. Soyez rassurés, une femme est enceinte, ce n'est pas forcément qu'elle a eu des rapports sexuels. Ça peut être de Dieu, ça peut être un visiteur du soir, mais plutôt un visiteur mystique. Mais revenons à des gens plus normaux et plutôt habituels. Alors là, le sexe est là. Faire une théorie de la parenté sans parler de la sexualité, c'est impensable. Mais certains de mes collègues l'ont fait. Ils font des théories des structures, mais ils oublient que les structures, ça fonctionne avec des sexes aussi. Passons. C'est là qu'on voit une chose fondamentale, si vous voulez. c'est que, alors, pour le dire simplement, la sexualité humaine est asociale. Je ne dis pas antisociale, sinon je serais un je condamnerais le sexe comme un mollah ou je ne sais qui. C'est pas, il n'y a pas de condamnation du sexe. Le sexe divise autant qu'il unit. Le sexe divise autant qu'il unit. Et en plus, la sexualité humaine, elle est une sexualité généralisée. Comme vous le savez, autant qu'on en a l'énergie et le désir, on peut quand même faire l'amour la nuit et le jour et toutes les saisons. Hein, si vous avez les moyens, ok. Ce n'est pas vrai dans les espèces animales. Les femelles sont en rut, et c'est pendant la période de rut que vous avez des rapports hétérosexuels. Mais qu'est-ce que vous faites entre... Enfin, si vous étiez un bonobo ou un chimpanzé, les deux espèces de primates les plus proches de la nôtre, n'est-ce pas, nous sommes des primates sociaux. Eh bien, qu'est-ce qui se passe entre-temps? Ils sont homosexuels. Vous n'avez jamais été dans un zoo, vous n'avez jamais vu... Si vous avez vu des bonobos, les femelles se frotter le vagin, les deux vagins ensemble. On a depuis longtemps vu que les espèces proches de nous sont homo et hétérosexuelles, et que c'est deux faits naturels. On ne peut pas aller trouver un chimpanzé dans sa cage et lui dire « fais pas ça parce que c'est pas beau ». Sois pas homosexuel, conduis-toi bien, sois seulement hétéro. Très dur d'aller demander à un chimpanzé de perdre sa nature, encore moins avec les bonobos. Les bonobos, c'est le top pour les primatologues maintenant. Les bonobos, on a découvert que les bonobos est la seule espèce de primates où, une partie du temps, les mâles et les femelles sont dans la position, non pas comme les autres, de faire l'amour par derrière, mais ils font l'amour par devant, comme les hommes, enfin ce qu'on appelle... Si vous le savez, la position du missionnaire, non, c'est ça. Bon. Ben, la position du missionnaire, c'est l'homme dessus et la femme en dessous. Ça, c'est une des positions possibles. Bon. On a découvert que les bonobos est la seule espèce de primate où ils alternent et par derrière et par devant. Alors, ça a fait des livres entiers, ça. C'est une découverte extraordinaire. Bon. Et ensuite, malgré tout, parce qu'il y avait vous savez bien que les primatologues sont comme tout le monde. Ils n'avaient jamais voulu voir que les bonobos et les chimpanzés étaient homosexuels. Il a fallu au moins une trentaine d'années avant que leur œil s'ouvre. Parce que ça, c'était... Ils avaient un peu projeté sur les pauvres primates leur philosophie existentielle. Alors maintenant, vous avez des films sur les rapports homosexuels chez les... Maintenant, c'est très médiatique, là. Vous avez des films, vous avez des bouquins, vous avez tout... sur l'homosexualité chez les primates. Bon. Alors, pour en revenir à la sexualité humaine, ben nous, on est top niveau. Top niveau. C'est-à-dire, on peut faire l'amour toute l'année, si on en a les moyens, hein, physiques, et le désir, ça c'est... Deuxièmement, donc, c'est ce qu'on appelle la sexualité généralisée, ce qui n'est pas contrôlé par la nature. Par des époques de la nature, quoi, comme on dit. Deuxièmement, ça fonctionne beaucoup chez les humains à la représentation intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez les curés connaissaient ça très bien. Ils disaient, est-ce que vous avez des mauvaises pensées? Bon. Une pensée mauvaise, c'était une pensée d'un truc, quoi, qu'il fallait pas faire, quoi. Donc, ça, on pouvait avoir des pensées, quoi. Mais des bonnes pensées, surtout. Donc, ça, vous avez donc... le deuxième caractère de la sexualité humaine, c'est... Elle fonctionne plutôt à la représentation interne. Je ne dis pas qu'on se passe des femmes ou des hommes, mais on anticipe avec la tête, n'est-ce pas? Troisième caractère très important de la sexualité humaine, elle est, je dois dire, polymorphe. On est tous homo et hétérosexuels. Parce que vous n'êtes pas content de le savoir, mais c'est comme ça. Et Freud, bien sûr, avait retrouvé la bisexualité dans ses patients. Mais il suffit de voir que maintenant les biologistes nous expliquent un peu tout ça et qu'il faut refouler une partie de nous-mêmes pour être l'autre. En gros, vous comprenez bien que ce qui va gagner à tout coup, c'est l'hétérosexualité, parce que hétérosexualité, ça reproduit, et puis l'homosexualité, jusqu'à maintenant, ça ne reproduisait pas, sauf... Bon, alors. Donc vous avez bien vu qu'il y a partout dans les sociétés une prévalence de l'hétérosexualité. Mais dans toutes les sociétés, il n'y a pas condamnation de l'homosexualité. Dans l'Antiquité grecque et latine, un homme libre était homosexuel et hétérosexuel. Ce qu'on lui demandait, c'est de ne pas se comporter comme un esclave. C'est-à-dire, il ne fallait pas qu'il soit passif. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le rapport, il ne fallait pas qu'il soit passif. Mais s'il était actif, et même super actif, c'était très bien. Donc, il n'y avait pas de condamnation de l'homosexualité comme telle. Il y avait la condamnation de mettre en danger un statut social. Statut de citoyen libre, supérieur aux affranchis et aux esclaves. En général, ils pouvaient servir des esclaves, ça c'était utile. Dans d'autres sociétés, que j'ai vécu moi dans une société où vraiment les jeunes étaient tous homosexuels. Alors, vraiment, j'ai passé 7 ans avec ils étaient homosexuels, pourquoi ? Attendez, avant de rire, vous allez voir. Parce que il faut séparer les garçons des filles, des mères. Donc à l'âge de 9 ans, 10 ans, on arrachait, on peut le dire, c'est un rituel extraordinaire et assez dramatique. Les petits gamins, là, hop, bien habillés et tout, vêtements du dimanche, on peut dire, le pagne du dimanche, on les arrache au monde féminin et on les met dans la maison des hommes jusqu'à 20 ans. Et là, la relation entre les garçons était homosexuelle, sous forme de deux étapes. Jusqu'à 15 ans, jusqu'à leur adolescence, ils étaient passifs, et de 15 ans à 20 ans, ils étaient actifs. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que c'était ? C'était pas la gay pride, hein ? Bon, j'ai rien contre la gay pride, mais voyons les choses telles qu'elles se présentent dans une culture. L'idée qu'avaient les Barouya, qui m'ont expliqué, moi j'ai initié par les hommes, l'idée c'est que les garçons, il faut les surmasculiniser. Il faut que leur corps se sépare des substances féminines polluantes. Et le sperme de jeunes gens qui n'ont jamais baisé, hein, avant le mariage, est une substance qui donne la force et la vie. La vie et la force. De sorte que les jeunes gens de 15 à 20 ans inséminaient les petits. Si les petits refusaient, on les tuait. C'était pas la gay pride pour s'envoyer en l'air. Hein. Bon. C'était pour masculiniser des gens et leur donner le droit de gouverner les femmes. C'était donc politique. C'est une homosexualité de construction de la virilité. Et là, tout le monde doit y passer. Donc, ce n'est pas une question qu'il y en a qui sont plus un peu machin homo chez eux et puis qui se révèlent un peu après, plus tard. Non, tout le monde. C'était une initiation collective. Donc, là, le statut de l'homosexualité est totalement différent puisque c'est une construction de la supériorité masculine. Donc, alors que dans d'autres sociétés, on dira un homosexuel, c'est une tante, c'est quoi ça ? Ça dépend des sociétés. Dans l'Antiquité, on ne pouvait pas dire ça. Sauf si vous voyez des poètes latins, il y a des poètes latins qui disent à leurs copains, parce qu'ils avaient des copains, qu'ils se comportent mal, parce qu'ils se comportent avec des esclaves et qu'ils ne sont plus des hommes. Ils se comportent mal parce qu'ils ne sont plus des hommes. Donc, c'est une façon d'être homosexuel qui n'en faisait pas des hommes. Ce n'est pas d'être homosexuel qui n'en faisait pas. C'est une façon d'être homosexuel qui n'en faisait pas des hommes. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient homosexuels. Donc tout ça, ça a beaucoup changé. Il y a même quelque chose qui est extrêmement, dont on ne parle pas trop, même quand on va en Asie, c'est que vous connaissez peut-être la pensée chinoise avec l'idée du taoïsme, avec le tao, la voie la voie de la connaissance, eh bien, il y avait une voie homosexuelle du Tao, de l'union de la vérité, de l'être. Donc, on n'a pas beaucoup investigué là-dessus, on n'a pas beaucoup travaillé. Donc, actuellement, on a une représentation très occidentale de l'homosexualité. Mais attention, l'homosexualité a énormément changé en Occident. Alors, j'en arrive donc à la question. Nulle part, donc, voyez bien, sexualité humaine est généralisée. Elle fonctionne plus à la représentation qu'à la stimulation externe, bien qu'il faut y aller deux, bien sûr. Troisièmement, elle est polymorphe. Elle est homo et hétéro, et il y a un rapport qui s'institue dans toute société et dans tout individu, donc, entre les deux parties d'un être individuel et un statut collectif donné à la sexualité. Aux sexualités, je veux dire, au pluriel, aux sexualités. Troisièmement, on a découvert qu'elle n'est pas seulement polymorphe, sexualité humaine, mais elle est polytrope. Trope, ça veut dire un tropisme. Et qu'il n'y a pas d'interdit. Si vous voulez, il n'y a pas un mécanisme dans la nature et dans mon corps, ou dans ma tête, ou dans mon cervelet, ou dans je ne sais pas quoi, dans mon noyau codé, je ne sais pas où, qui m'interdise de désirer ma sœur. Dans certaines circonstances, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas un mécanisme qui va le faire. Donc elle est polytrope. Polytrope. Et en plus, la sexualité humaine, si vous voulez, divise autant qu'elle unit. Elle peut diviser deux frères pour la même femme et tout, deux sœurs pour le même homme et tout. C'est un bordel énorme. Enfin, si vous voulez, écoutez tous les jours les chansons dans les supermarkets pour vous expliquer comment acheter des soutiens-gorge. C'est une chanson qui vous explique qu'un amour est foutu, il faut recommencer, tout ça. Enfin, on vit que dans cet imaginaire-là, quelque part. Alors, où sommes-nous maintenant, nous en France, par exemple? Revenons maintenant, vous avez donc vu ce que c'est parenté et famille, et vous avez vu qu'à chaque fois, la famille va être structurée par des tas de trucs, qui sont des combinaisons sociales, il faut les connaître. C'est pas facile à trouver, mais on y arrive. À chaque fois, la famille n'est pas la même. La place des hommes n'est pas la même, la place des enfants n'est pas la même, etc. Alors aujourd'hui, par exemple en France, prenons la situation. En France, on a donc 2 500 000 personnes qui vivent en union libre. Pour eux, donc, le mariage n'est pas une nécessité pour faire une famille. En plus, les jeunes se marient maintenant de plus en plus tard, 27 ans pour les filles, 29 ans, ça dépend, 27-29 ans pour les garçons et les filles. Les gens démarrent en couple. Les couples ne font plus famille. Et ils se marient. C'est pas quand on dit la fin du mariage, c'est faux. Les gens se marient, mais plus tard. Et il y a une minorité qui ne se marie pas. Avant, c'était moins possible. Mais bon, il y a plusieurs statuts, concubinage, etc. Union libre, concubinage, mariage. Et ce qui a beaucoup changé, c'est que l'autorité paternelle a été remplacée par l'autorité parentale. L'homme et la femme ont la même autorité sur les enfants, et une chose fondamentale, cette autorité continue après la dissolution de leur union. C'est-à-dire, c'est pas la peine de parler de ma famille, mais ma fille, justement, est en famille recomposée. Bon. Mon fils est en famille d'union libre. Alors, donc, j'ai plein de variétés de parenté autour de moi qui me permettent d'étudier la société moderne. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a de plus en plus maintenant de divorces. Un tiers des mariages français se termine par un divorce au bout de 5 à 7 ans. Et après, on recommence. On se marie à nouveau. D'où ça constitue la chose qui n'existait pas si souvent, la famille recomposée. Dans la famille recomposée, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un monsieur qui vient avec deux enfants d'une autre femme, une femme qui vient avec deux enfants d'un monsieur, ça en fait 4, déjà ça fait un bloc, plus après ils vont peut-être en avoir un ou deux ensemble. Ça fait 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Un statut différent. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, comme ce n'est pas interdit, c'est très bien, ils essaient d'inventer de la parenté nouvelle pour ça, pour ces situations. Alors on attend que le monsieur qui vient avec la dame et qui ramène ses deux enfants, il se comporte avec les enfants de la dame comme un père. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas de rapport génétique avec les enfants de sa femme, du premier mariage. Mais on lui demande d'avoir une attitude sociale, de père. La parenté sociale qui existe dans les sociétés primitives se recommande chez nous. Le lien génétique n'est pas nécessaire pour avoir une attitude de père et de mère. Et c'est pour ça qu'on étend l'interdit de l'inceste. Il ne faut pas que ce monsieur qui n'a aucun lien génétique avec les enfants de sa femme de premier mariage, il couche avec quand même. On lui demande de constituer une attitude de paternité sociale et réciproquement de maternité sociale. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant? Deuxième grande transformation, ou troisième grande transformation dans la société française, mais c'est aussi la société occidentale, de l'Europe occidentale et de l'Euro-Amérique, Canada-Amérique, États-Unis. Hein. Après, on trouve des attitudes semblables aux nôtres dans des sociétés que les Européens ont christianisées. En Océanie, en Polynésie, tout ça. Mais là où c'est le bouddhisme et tout ça, nos attitudes ne sont pas en train de se diffuser. Bon. Donc, troisième grande transformation, actuellement, les technologies de la reproduction font que beaucoup de gens, plutôt que d'adopter, utilisent, c'est le problème des mères porteuses. Hein, c'est-à-dire, on transfère un ovocyte fécondé dans le ventre d'une femme qui fait les 9 mois de grossesse et prend les risques de cette grossesse. Aux États-Unis, c'est permis dans plusieurs États. C'est interdit en France. Dans plusieurs États, c'est permis. Je vous décris comment ça se passe. Vous avez des parents qui font appel à des mères porteuses, en anglais surrogate mothers, et on signe un contrat. On signe un contrat, il y a des associations de mères porteuses qui sont sur le website. Alors, bon, vous signez un contrat avec cette personne, et le contrat stipule ceci, écoutez bien. Qu'à la naissance de l'enfant, cet enfant n'appartient pas à la mère qui l'a porté, mais à celle qui l'a commandé. Pour qu'il n'y ait pas de problème de « Ah non, je l'ai porté, c'est le mien maintenant, etc. » Mais l'ovocyte s'est transféré, qui n'est pas le sien, hein, à la dame. Donc, il a été fécondé par le mari de la dame, qui ne pouvait pas avoir, etc. Ça, c'est, bon. Donc, on peut avoir maintenant une maternité par personne, en 2 personnes ou en 3 personnes. Mais ce qui va être la finale, c'est la mère, comme épouse du mari, qui voulait un enfant, ce couple, et qui l'a fait par ce procédé. Deuxième condition dans ces contrats, pas plus de 40 000 dollars. Enfin, disons, ils fixent un barème pour que ça ne soit pas la prostitution des utérus. Bon, c'est très protestant, ça. Mais mettre une limite dans l'argent pour ses péchés, c'est très bien, ça. Passons là-dessus. Il faut avoir beaucoup d'humour dans la société, vous savez. Il faut regarder ça avec distance, quand même. Bon, on comprend, puis en même temps, ça n'empêche pas que les parents qui veulent à tout prix un enfant, après avoir signé les 40 000 dollars, ils filent des enveloppes. Et puis, ils sont aux petits soins avec cette femme pour que surtout elle aille jusqu'au bout, là. Ils lui paieraient même un voyage, je ne sais pas où, mais pas en Indonésie, parce que c'est. Il y a du tsunami par là, mais bon, n'importe où, pourvu que l'enfant soit né et que tout de suite il soit pris. Donc, actuellement, se développe, grâce aux nouvelles technologies, une fission de la maternité, quoi. Bon, il y a aussi Donc, c'est un substitut à l'adoption. L'adoption est toujours possible. Enfin, pas toujours possible. En France, il faut avoir 26 ans, je pense, ou 28 ans. Et c'est beaucoup plus facile pour les femmes que pour les hommes, parce qu'on dit que les hommes sont incapables d'élever des enfants, vous le savez bien, ce qui permet aux homosexuelles femmes, évidemment, d'adopter célibataires, de se retrouver en famille homosexuelle. Bon, ça veut dire que la loi est trouée qu'un petit peu, quoi. Bon. C'est comme ça que ça se passe. Et vous avez ensuite la tentation, alors là, c'est un rêve américain, mais pas seulement, c'est le clonage. Alors là, ça serait la super technologie, je me clone moi-même et je suis mortel. Vous voyez, ça serait... C'est interdit. C'est interdit, mais il y a des laboratoires qui le développent actuellement en Thaïlande. Partout, on peut investir sans être contrôlé. Personnellement, je suis tout à fait contre le clonage reproductif et les fantasmes des individus qui veulent s'immortaliser. Hein. Alors là, il n'y a plus de sexe du tout. Hein. Je suis né d'un sexe, mais moi, je me prolonge et je continue à être sans sexe, par clonage. Je ne suis pas très expert, mais j'ai discuté avec des biologistes. Il paraît qu'il y a eu quand même un problème. C'est que quand on clone, la brebis qui a été clonée, elle est morte très vite. Parce qu'elle a démarré petite, mais elle avait déjà l'âge de son âge. Elle avait déjà l'âge de son âge. C'est-à-dire qu'elle a vécu les années qu'elle aurait dû vivre normalement, de son âge adulte jusqu'à sa mort. Donc la deuxième qui a reproduit la première, elle reproduit une vieille. Alors ça, c'est pas bon pour les immortels. Les immortels, faut mieux se reproduire éternellement jeune, mais éternellement vieux, c'est fou. Alors, prions, si on peut dire, que pendant longtemps, ça ne soit que des vieux ou des vieilles qui se reproduisent. Bon. Ensuite, j'arrive à la dernière grande transformation actuelle. C'est l'apparition et la multiplication relative des familles homosexuelles, qui sont illégales en France, mais un grand pays catholique que vous connaissez, notre voisin du dessus, l'Espagne vient d'autoriser il y a 4 semaines le mariage homosexuel. Et c'est un acte constitutionnel. Alors évidemment, ça fait un choc quand même, non ? Pays de l'Opus Dei, etc. Donc il y a une évolution formidable des mœurs. Je ne sais pas si l'Espagne catholique va entraîner la Pologne, ça je ne sais pas. Mais j'ai des doutes. Tous les catholiques ne marchent pas du même pied, d'accord ? Et les protestants non plus. Donc en fait, voilà, maintenant, deux pays qui sont, l'un protestant, c'est la Hollande, où c'est officiel, et l'Espagne. Bon, ailleurs, en Angleterre, c'est en cours également. Il y a quelques pas qui ont été faits. Il y a aussi des évolutions qui ont été faites en matière de statut du coparent, ce qu'on appelle le Children Act en Angleterre depuis quelques années. L'époux de la dame, le deuxième mari, quoi qu'il vient, il a des droits, il a des responsabilités reconnues par la loi dans l'éducation et la morale des enfants que la femme apporte avec lui. Donc il partage une responsabilité paternelle avec le père de ses enfants qui ne vit plus avec la mère. Donc il y a eu une évolution légale aussi pour instituer des responsabilités. Alors, donc actuellement, dans tous les pays occidentaux, en tout cas de l'Allemagne jusqu'à la France, cette bordure, plus les débats qui sont au Canada, mais le Canada a reconnu dans certains États aussi le mariage homosexuel, et aux États-Unis, Bush, il n'aime pas ça, hein, c'est pas son trip, là. Il a fait d'ailleurs profiter de son élection pour faire 11 référendums sur le mariage homosexuel, qui a bien sûr... Il a été à la fois lui élu et le mariage condamné. Donc il a fait coup double. Mais il y en a deux États où c'est autorisé, possible, avec des difficultés. Enfin bref, il y a un mouvement qui se fait. Alors, si vous voulez savoir ma position comme anthropologue, donc un homme qui a un être humain qui a quelques dizaines et centaines de formes de société dans la tête de temps en temps, non ? Hein ? Donc j'ai été consulté après la parution de mon livre Métamorphose de la parenté. J'ai été consulté et par la fondation créée par Jérôme Monod, donc la fondation Jacques Chirac. Ça existe, hein, ça s'appelle Fondation pour le renouveau du politique. Et j'ai été consulté par l'autre côté, le Parti socialiste. Donc vous voyez, ils veulent savoir ce que des gens comme moi on pense sur le mariage homosexuel. Pourquoi ? Parce que ça va être un argument dans la campagne électorale, et puis il va falloir légiférer un jour comme les autres pays. Donc de toute façon, les politiques un jour doivent prendre des décisions législatives. Alors ma position est celle-ci. Comme ça, moi je suis d'accord pour la légalisation des mariages homosexuels et donc des familles homosexuelles. Je ne suis pas homosexuel moi-même, hein. Je n'ai pas d'intérêt particulier, je ne suis pas un militant des groupes gays and lesbiennes, je ne suis pas. Je regarde pourquoi ça se présente dans nos sociétés, à partir des structures de parenté, de la tradition, d'une histoire. Et je vois que trois choses se sont passées qui amènent à cette revendication. Et d'abord, voyons combien y a-t-il, c'est pas facile, et normalement jusqu'à maintenant, il est interdit dans les enquêtes statistiques françaises de s'interroger sur la sexualité des individus. Hein. Mais je suis par ailleurs président du Conseil scientifique des recherches sur le sida. Et on est obligé de savoir un peu, quoi, hein, parce qu'il y a des populations dites à risque. Que vous connaissez, non ? Bah. D'après ce que nous savons, dans la population française, il n'y aurait pas plus de 4,8% d'individus homosexuels. Ça, c'est pas l'avalanche. Hein. Bon. Et maintenant, sur ces 4,8%, d'après ce qu'on dit, par des enquêtes qui ne sont pas faciles à faire, vous voyez, des questionnaires et tout ça, bon, prenez ça, il y aurait 2,5%, c'est-à-dire la moitié, quoi, qui seraient d'accord pour être des parents, par adoption ou pour les femmes, elles peuvent choisir l'insémination. Les autres ne veulent pas du tout être parents, ils pensent que être homosexuel, c'est une autre liberté, etc. Donc, dans les milieux artistiques, ça se présente beaucoup, ça. Bon. Donc déjà, vous voyez, ramener les choses à un fait social et à la mesure de ce fait social. Alors, il s'est passé deux choses. Il s'est passé, si vous voulez, dans le long terme, à partir du XIXe siècle, un fait dans nos sociétés qui est ce qu'on appelle la valorisation de l'enfant et de l'enfance. L'enfant est une valeur sociale. Attention, ce n'est pas l'enfant des paysans, il faut en avoir 10 pour avoir des bras. Ou bien moi, j'étais fils unique, il fallait un fils unique pour que je sois normalien. C'est une valorisation de l'enfant et de l'enfance et sa place dans la société. Ça, c'est un grand phénomène historique de nos sociétés et c'est un phénomène positif, à mes yeux. La deuxième grande transformation, mais elle est plus récente. La première dont je vous parle a commencé au milieu du 19e siècle, à peu près au XIXe siècle, valorisation de l'enfant et de l'enfance, donc. On n'a pas besoin d'être romantique pour ça, hein. C'est plutôt les droits, d'où les droits universels de l'enfant, d'où on peut arriver même aux Nations Unies à une déclaration des droits de l'enfant. Bon. Deuxième évolution qui s'est passée, alors plus récente, et carrément à partir de la moitié du siècle dernier. Deux évolutions parallèles. L'homosexualité a été, dans l'ordre des médecins, dans l'ordre des psychologues, dans l'ordre des etc., dépathologisée. C'est-à-dire, l'Association américaine des médecins, la française. Avant, c'était, on enseignait dans les facultés de médecine que être homosexuel, c'est être pato, quoi. C'est une maladie, bon, il fallait la guérir. Donc elle est devenue... et puis, alors, pour ceux qui croient, qui ont de la religion, c'était un péché. Alors d'un côté, c'était une maladie, de l'autre côté, c'était un péché. Et puis c'était à la fois une maladie et un péché, ça faisait fort, ça. Ça faisait coup double. Alors maintenant, l'homosexualité, depuis un certain nombre d'années, n'est plus du tout une maladie. Et plutôt les jeunes, entre eux, acceptent plutôt... Il y a toujours des gars qui sont, qui n'aiment pas les homos, hein. Bon, le phénomène a pris une autre allure selon les générations. Donc l'homosexualité, c'est à la fois dédiabolisé et dépathologisé, quoi. Troisième évolution. Et ce que je veux vous dire, c'est que les débats qui se font actuellement et auxquels sont confrontés les citoyens que nous sommes, les hommes politiques, parce qu'ils ont des décisions à prendre, c'est la troisième évolution, c'est une, de plus en plus une reconnaissance ou une acceptation jusqu'à un certain point des droits des minorités ou des droits que des individus en tant que tels ou des groupes puissent vivre une vie normale en étant différents, quoi. Bon, jusqu'à un certain point. Mais en gros, c'est une sorte de vision... démocratique d'intégration des différences plutôt que d'élimination de la différence. Donc, si vous voulez, le débat, ce qui se passe maintenant, et les homosexuels utilisent probablement, d'après ce que je lis d'eux, puis je les connais, ils m'invitent aussi d'ailleurs, ils utilisent une argumentation qui va un peu dans mon sens. Mais moi, n'étant pas impliqué personnellement là-dedans, j'essaie de placer ce problème à l'intérieur d'une évolution des sociétés, quoi, et des structures sociales. Donc, alors, il me semble que on n'arrête pas un mouvement sur le plan social, on l'encadre politiquement et on l'encadre juridiquement, on l'encadre socialement. Socialement, ça va être la lutte contre l'homophobie. À condition que l'homophobie ne soit pas, qu'il n'y ait pas une hétérophobie. Entendez bien ce que je dis. Hein. Que ceux qui pensent que l'homosexualité est une homosexualité normale ne pensent pas que l'hétérosexualité, c'est anormal. Il ne faut pas recommencer à l'envers, quoi. Donc il faut vraiment une attitude face à la sexualité humaine qui soit une attitude ouverte et différente. Pas balancer d'un côté dans l'autre, parce que c'est foutu, là. On n'avance pas. Donc, à mes yeux, la position actuelle que je donne à ceux qui me consultent, c'est qu'il faut encadrer politiquement par un débat de société. Il faut encadrer juridiquement. Il faut encadrer socialement. Dans les écoles et tout ça, une discussion doit se faire avec des gens, quand même, qui ont réfléchi. On ne dit pas n'importe quoi sur ces sujets-là. Et dans ces conditions, je pense que, par adoption, d'abord, ça ne sera jamais un phénomène de grande ampleur, par adoption ou par insémination, une famille homosexuelle peut se composer, peut se constituer. Est-ce qu'elle sera incapable d'élever les enfants? Donc, j'ai posé la question... Est-ce que... Alors, j'ai regardé aussi, quand même, étant donné que j'avais la responsabilité de ce livre, qui est une synthèse de 10 ans de ma vie, et puis de beaucoup, beaucoup de documents, j'ai regardé un peu, est-ce que, maintenant, dans les sociétés qui ont assez largement, par exemple, on dit qu'il y a à peu près plus de 100 000 enfants qui vivent dans des familles homosexuelles en Hollande, n'est-ce pas? Mais il y a 293 millions d'Américains, ce que vous ne savez peut-être pas. Et on dit qu'il y a 2 millions d'enfants qui vivent dans les familles homosexuelles ou des familles monoparentales. Car j'ai oublié de vous dire aussi que, quand même, le statut de la femme a changé. Les femmes bossent, elles ont un salaire. Et il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants sans mari. Et elles ne seront ni dans le concubinage, ni dans l'union libre. Et il n'y a pas d'homme. Il y a un enfant, mais il n'y a pas d'homme. Ce n'est pas impossible qu'il y ait des hommes qui apparaissent et disparaissent. C'est une femme qui prend le choix d'avoir un enfant et de l'élever, seule, d'abord. Ça aussi, ça veut dire que maintenant, c'est possible. C'était impossible dans les autres sociétés. Dans les autres sociétés, hommes et femmes dépendaient les uns des autres pour vivre. Dans la division du travail, dans des tas de trucs. Hommes et femmes, maintenant, il est possible qu'un homme vive sans femme toute sa vie et une femme sans homme. Si y a un marché du travail qui me permet, ce qui n'est pas évident. Les premières victimes, vous savez, de l'emploi, c'est toujours les femmes. Et premièrement, les femmes seules. On regarde ça, c'est très net sur les statistiques. Dès qu'il y a un reflux économique, ceux qui souffrent le plus, ce sont les femmes seules. Bon. Donc on voit bien les rapports sociaux et l'évolution des rapports sociaux. Donc compte tenu de tout ça, est-ce que le problème se posait, c'était de savoir si les enfants élevés par une famille homosexuelle allaient à la lessiveuse devenir homosexuels eux-mêmes? Les enquêtes qu'on a faites sont tout à fait claires. Il y a des enquêtes en Angleterre, des enquêtes aux États-Unis. Les Français n'ont pas lancé ce genre d'enquête encore, mais bon, ça va se faire un jour peut-être. Il y a une légère propension, alors, si dans toutes les familles, il y a des enfants qui apparaissent plus homosexuels que d'autres, ça arrive partout. Bon, ça, c'est pas un problème. C'est un problème à gérer, ça. Est-ce que, du fait que les parents seraient homosexuels, les enfants, ils vont devenir tous automatiquement homosexuels? Alors, la conclusion actuelle, non. Il y a une légère inflexion positive pour être homosexuel, mais légère. Pareil, pourquoi? Semble-t-il. Mais il faut bosser pour ça encore. Les homosexuels, à moins de vivre tous entre eux en homosexuel et d'avoir des supermarkets homosexuels et tout en homosexuel, ils vivent en général avec des hétérosexuels autour d'eux. Il y a un papa, il y a une grand-mère, il y a un grand-père, il y a des oncles, il y a des tantes, tout le monde y... Donc il y a une diversité. Bon, l'école aussi est diverse et tout ça. Donc les enfants sont, entre guillemets, c'est pas un mot que j'aime, exposés à la différence des sexes autant qu'à l'homosexualité. Ils sont exposés en permanence à la différence. De sorte que ça dépend un peu à ce moment-là, on peut dire, du mouvement de la société, de ce qui va être dit et pensé globalement, positivement ou négativement, et qui va toucher toutes les écoles comme tous les foyers, plus ou moins. La télé aussi, d'ailleurs, qui touche tout le monde. Donc, si vous voulez, compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, la rencontre de trois mouvements globaux, qui ne sont pas les individus, là, la rencontre aussi, la statistique des groupes sociaux, et les enquêtes qu'on a faites sur... une certaine durée du phénomène, 10-15 ans maintenant. Moi, j'ai conclu qu'il ne faut pas diaboliser, on peut accepter et il faut l'encadrer politiquement et juridiquement et socialement. Mais ça, c'est tout le monde qui doit le faire ensemble, c'est pas moi. Donc, vous avez ma position. Ça ne plaît pas trop à mes collègues. Il y a beaucoup d'anthropologues qui aiment bien les familles hétérosexuelles parce que c'était leur assiette au beurre, quoi. Bon. Lévi-Strauss, il n'aime pas beaucoup non plus le mariage frère-sœur parce que comme on doit échanger sa sœur, c'est un truc qu'il n'aime pas trop, quoi. Hein. Freud, alors j'en parle pas. Freud, psychanalyse, n'aime pas ça. Hein. Psychanalyse, on a tué le père et au lieu de coucher avec sa sœur, on l'a échangé. C'est un peu pareil. Donc les psychanalystes n'aiment pas beaucoup l'idée d'un... Parce qu'après, les gars vont être fêlés. Hein, parce que normalement, vous connaissez l'histoire. Enfin, je ne voudrais pas caricaturer la psychanalyse, parce que j'ai beaucoup de respect pour Freud et pour beaucoup de psychanalystes. Pas pour tous, hein, ni pas pour toutes les écoles. Mais bon, évidemment, si vous avez réprimé le désir de coucher avec votre mère, vous allez trouver une femme en dehors de la famille pour le faire. N'est-ce pas ? Mais si vous trouvez dans la famille, etc., donc vous voyez un peu la différence des sexes, c'est absolument fondamental. Et la sortie de la famille est fondamentale pour Freud. Pour Lévi-Strauss, il n'a pas d'autre raison que l'échange des femmes est nécessaire, parce que c'est une alliance. Donc actuellement, ce qui se passe dans nos sociétés touche et la théorie et la vie. Hein ? Ça ébranle l'universalité de certaines positions théoriques, et ça, bien sûr, ça travaille dans la vie, quoi, les gens. Et les gens se démerdent comme ils peuvent, pour l'instant. Ils essaient de s'en sortir avec leurs idées, leurs débats dans la presse, comme ça. Bon. Alors voilà où nous en sommes. Alors, je crois que j'ai fait le parcours, quoi. Hein, parenté, famille, vous avez vu la différence et l'union. Vous êtes arrivé sur un sexe asocial qui vous rassure. Et enfin, vous n'êtes pas traumatisé par les homosexuels, donc. Ça va. C'est bien.
Merci. Alors, nous n'allons prendre que deux questions, donc vous les choisissez bien, parce que compte tenu de l'heure extrêmement tardive, il faut que nous évacuions la salle. Donc il y a deux questions, j'espère qu'elles sont bien choisies.
C'est de ma faute, hein. C'est de ma faute.
Pourriez-vous nous expliquer, monsieur, d'où vient le mythe de la Vierge ? D'une part, et d'autre part, qu'est-ce que deviennent les malheureux cocus ?
Ce sont nos deux questions.
Hein. Non. Moi, écoutez, ne pleurons pas sur les cocus. On l'est tous, on le sera tous, on devrait l'être même, si je peux dire. Mais revenons à la Vierge, qui est une excellente question quand même, non ? Vous dites la Vierge, elle est doublement immaculée. Pourquoi ? Parce que, étant donné que c'est par le sexe que la faute originelle, la macula, se transmet, eh bien, d'après ce que j'ai dit, parce que moi j'étais encore un garçon naïf, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule immaculée conception, mais c'est, Marie est doublement immaculée. Donc c'est un théologien qui m'a expliqué ça, il m'a rectifié un peu mon christianisme. En fait, Sainte Anne, si j'ai bien compris, Dieu a interrompu, lorsqu'elle a fait l'amour avec son monsieur, là, pour faire Marie, il n'a pas fait passer la macula. Donc Sainte Anne, en faisant l'amour, n'a pas transmis à sa fille, Marie, le péché originel. Donc Marie est née immaculée. Et deuxièmement, elle a donné un enfant, cette fois-ci, sans faire l'amour, puisque c'est Dieu qui lui a fait, le Saint-Esprit a créé dans son corps le petit Jésus. Donc, de coup double, deux fois immaculée. Bon. Ça vous dit aussi que. Ça vous dit aussi que notre culture depuis pas mal de siècles, presque deux millénaires et plus, c'est vraiment une culture judéo-chrétienne dans laquelle la sexualité est porteuse de dangers énormes pour l'ordre social. Et donc l'objet d'une répression très forte. D'autres sociétés ont mis moins d'interdits sur le sexe quand même. Mais là, vous avez un fondement religieux et mythique, parce que c'est un mythe, hein. c'est pas rationnel, vous n'avez pas de preuve de ça. Vous avez qu'à croire ça ou pas le croire. Alors croyez-y ou croyez-y pas. Deuxième question, s'il vous plaît, parce que là on a le droit. C'est de ma faute, hein. J'ai été très long. On m'a fait parcourir toute la parenté là. Deuxième question bien choisie, surtout pas les cocus cette fois. Hein. Mais c'est pas une mauvaise question, les cocus. Vous savez, maintenant, l'adultère n'est même plus un problème.
Alors, la dernière. Hein.
La dernière, la question 2 qui sera...
Oui, je ne sais pas si ma question est bien choisie, attention, mais je voulais savoir...
Hein. Elle doit être lourde, votre question, c'est la deuxième.
Elle est un peu lourde.
Allez-y.
Je voulais savoir ce que vous pensiez du problème du traumatisme de l'enfant dans l'inceste intergénérationnel.
Intergénérationnel. Oui, il est très très important. C'est justement l'inceste qui... Vous avez entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur... Vous avez entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le mariage frère-sœur. Ce mariage est attesté. Et ce mariage attesté impliquait l'interdit du rapport sexuel père-fille ou mère-fils. Donc même dans les sociétés qui ont autorisé le frère-sœur, eh bien, on estimait que ça détruisait la famille, hein, cette unité-là, quoi. Ça détruisait la famille, le rapport intergénérationnel. C'était subversif. Subversif pourquoi, à mes yeux ? Parce que ça crée deux problèmes. Ça met en rivalité, par exemple, si la mère couche avec son fils, elle met en rivalité son mari et son fils. Quand même, à moins de se distribuer tous les soirs les deux côtés et satisfaire tout le monde sans problème, compliqué. Hein. Parce que le statut d'un homme par rapport à son épouse, c'est pas pareil que lui-même vis-à-vis de son fils. Il y a des rapports de coopération et d'autorité dans une famille. Même si le mot autorité n'est plus très fréquent, paraît-il, dans nos sociétés, il y a quand même des rapports comme ça qui font qu'on vit ensemble. Deuxièmement, c'est pas seulement regarder à l'intérieur de la famille. Si un homme couche avec sa fille, par exemple, non seulement il a un problème avec son épouse, mais il a un problème avec les parents de son épouse. La parenté, c'est vraiment des unions de groupe. Et il fout la merde à l'intérieur et à l'extérieur, dans ses rapports d'alliance. Donc, si vous voulez, pour dire les choses en termes techniques, mais je vais vous les expliquer, le rapport incestueux intergénérationnel compromet deux choses à la fois. Des rapports internes dits de consanguinité. C'est un mot européen qui n'a aucun sens en dehors de l'Europe. Hein. Avoir le même sang que son père et sa mère, ça n'a pas de sens ailleurs. Bon. Mettons des rapports internes, mais ça met en question les rapports de cette famille qui s'est constituée avec les familles dont elle provient. Donc, entre un frère et sa sœur, ils n'ont pas encore noué des relations d'alliance, ils n'ont pas encore fait des enfants. Entre des gens qui sont mariés et qui ont des enfants et qui sont alliés en deux familles qui sont alliées, ça fout une double merde. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que l'humanité a une certaine rationalité, bien que vous avez vu les hautes doses d'imaginaire que je vous ai décrites. Hein. Ben, la rationalité, c'est à travers des imaginaires puissants quand même. Mais là, il semble que ça soit universel. Universel. Attention. Attention, dans les sociétés matrilinéaires, un père peut coucher parfois avec sa fille, il sera réprimé. Mais dans une société matrilinéaire, une mère avec son fils, elle est tuée. Donc, pourquoi ? Vous voyez, puisque l'enfant lui appartient entièrement, tandis qu'il n'appartient pas au mari, qui n'est pas un père selon notre... comme nous le pensons. De sorte qu'on a, nous, trouvé dans beaucoup de sociétés, surprise pour les psychanalystes, qu'un homme qui couche avec sa fille dans une société matrilinéaire, comme sa fille ne lui appartient pas et ce n'est pas son sang, mais celui de la femme, alors il est puni pour avoir fait le con, quoi. Il est puni, mais la mère, si elle le fait, et l'oncle maternel avec la fille, tlac. La mort. Donc même ce que nous voyons comme symétrique, père-fille, mère-fils, dans beaucoup de sociétés, n'est pas symétrique. La sanction n'est pas la même. L'autorité pour sanctionner n'est pas la même. Soit c'est l'État, soit c'est le chef de village, je ne sais pas quoi. Parce que, et vous revenez au début de mon exposé, que je ne recommence pas, parenté et filiation, parenté et famille doivent se penser ensemble, mais il faut savoir un peu pourquoi, quoi. Vous voyez ? J'ai répondu à votre truc, là. Bon, c'est bien.